Bonjour Mathieu Orphelin.
Bonjour, merci de l'invitation.
Des manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes de France hier pour réclamer une politique environnementale plus ambitieuse, alors que la loi climat est examinée à partir d'aujourd'hui en séance à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous espérez que cette mobilisation puisse faire bouger les lignes dans le sens que vous espérez, justement, dans le sens que vous souhaitez?
En tout cas, on a eu une très belle mobilisation sur le terrain hier. J'ai participé à deux marches à Nantes et à Mur-et-Rigné. On voyait ce dynamisme, cette bonne humeur, cette bienveillance, cette envie de dire au gouvernement « Allez plus loin !» Réintégrer les mesures de la Convention citoyenne. Est-ce que le gouvernement va le faire? Franchement, j'ai peu d'espoir que l'ambition générale soit grandement améliorée. Le gouvernement continue de faire la sourde oreille à l'alerte citoyenne, à l'alerte politique des écologistes, mais aussi et d'abord à l'alerte des experts. Tous les experts qui se sont intéressés à cette loi disent qu'elle n'est pas au niveau. Voilà, le gouvernement va être obligé de lâcher un ou deux petits points pour essayer de montrer qu'il ne fait pas de surplace, mais globalement, non, j'ai peu d'espoir, mais on va continuer à se battre quand même, parce que c'est un combat juste pour le climat et pour la solidarité.
Et pourtant, Mathieu Orphelin, c'est une écologiste qui est ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, qui vient d'Europe Écologie Les Verts, et qui estime que c'est une grande loi, la loi climat, dont on va observer les effets dans beaucoup d'aspects de notre vie quotidienne.
Oui, j'aimerais pas être à sa place, voilà, parce que je suis persuadé, vous savez, on se connaît depuis longtemps avec Barbara Pompili. Je suis persuadé qu'au fond d'elle, elle sait très bien que sur la rénovation énergétique, sur les mobilités, sur l'agriculture et l'alimentation, elle sait très bien que la loi ne va pas assez loin. Et je crois que ça ne doit pas être si évident pour elle d'essayer de croire à ce qu'elle dit quand elle dit que c'est une grande loi qui va tout changer, etc. Elle le sait, c'est pas la réalité. Elle a vu toutes les réactions des experts, des conseils divers qui ont analysé cette loi. Et elle sait qu'elle met de côté, parce qu'elle a perdu ses arbitrages, les 10 plus grandes mesures de la Convention citoyenne.
Vous avez présenté la semaine dernière avec Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie elle-même, de l'environnement, des propositions qui permettraient selon vous de réduire les émissions de CO2 de 50 millions de tonnes par an d'ici à 2030, alors que selon vous ce serait entre 6 à 10 millions dans le projet de loi climat du gouvernement. Quelles seraient les contreparties de cet objectif?
Effectivement, avec Delphine Batho, nous avons proposé une loi très courte, 17 articles, mais qui aura entre 5 et 8 fois plus d'impact que la loi du gouvernement, avec des mesures, des solutions sur tous les thèmes. C'est pas une loi pour interdire ou pour contraindre, c'est une loi pour donner des solutions sur la rénovation énergétique, sur les mobilités alternatives, sur l'alimentation. Donc vraiment une loi qui va changer en mieux la vie des Français et qui va permettre de préparer l'avenir. Il n'y a pas vraiment de contrepartie. La contrepartie, c'est de dire on engage tous les acteurs, les entreprises, les collectivités, les citoyens, les territoires dans cette transition écologique en grand, celle qui va vraiment changer la donne, créer des emplois sur le territoire. Voilà, c'est la contrepartie, bien sûr, que quand il y aura des aides, c'est un des articles de loi de notre proposition de vraie loi climat avec Delphine Batho, on dit qu'on donne des aides aux grandes entreprises, il faut qu'il y ait des contreparties écologiques et sociales. C'est ce que nous portons dans cette loi. Et encore un sujet sur lequel le gouvernement ne veut pas avancer alors qu'on est à la fin du quinquennat.
Quelle est, selon vous, la grande mesure qui manque à la loi climat du gouvernement?
Sans aucun doute, j'en verrai deux. La première, c'est la généralisation de la rénovation énergétique de tous les logements, aider tous les propriétaires en leur avançant jusqu'à 100% du coût des travaux ou en leur permettant un reste à charge très limité. Voilà, rénover énergétiquement tous les logements, ça c'est très important, ça fait de l'emploi sur les territoires, ça baisse les factures, ça permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une mesure forte. Une deuxième, la régulation de la publicité. Plus de 80% des Français disent qu'il faut mieux réguler la publicité sur les produits les plus polluants. C'est une évidence. Et là aussi, le gouvernement a préféré du greenwashing et deux articles un peu brinque-ballant dans lesquels il n'y a pas grand-chose. Peut-être une troisième, généraliser le forfait mobilité durable pour les salariés qui décident d'aller travailler en vélo ou en covoiturage.
Est-ce que vous avez l'impression que la politique environnementale est une victime collatérale, en quelque sorte, de la crise sanitaire?
Non, je crois que... Enfin, peut-être, mais le problème de cette majorité avec l'écologie vient de plus loin que ça. C'est ce qui a fait que Nicolas Hulot est parti du gouvernement, c'est ce qui a fait que je suis parti du groupe LREM il y a maintenant près de 2 ans et demi à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est une mésestimation des enjeux écologiques et de ce que ça implique dans l'action politique. Je crois que c'est d'abord ça que dit ce projet de loi, c'est que la majorité du gouvernement, leur choix politique, c'est de ne pas croire qu'il faut mettre ces grands défis écologiques, climatiques et de solidarité au cœur d'un grand modèle enthousiasmant pour notre société. Donc je pense que le Covid n'explique pas tout, c'est d'abord un problème de positionnement politique.
Pour parler justement de la crise sanitaire, une quarantaine de directeurs médicaux de crise de l'APHP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, ont publié hier une tribune dans laquelle ils disent se préparer à devoir faire un tri des patients face à la flambée de l'épidémie. Est-ce qu'il y a, selon vous, aujourd'hui, une autre solution qu'un reconfinement strict et sans doute aussi une fermeture des établissements scolaires?
Je crois que il faut que le gouvernement prennent des décisions dans les jours et les semaines à venir qui ont été trop longtemps repoussées. Très clairement, les alertes des épidémiologiques, elles datent d'il y a plusieurs semaines. Le président a voulu tenir son pari jusqu'au bout et je crois que c'était une erreur de fonctionner comme ça avec la crise sanitaire. Depuis le début du premier confinement, je demande au gouvernement de changer la gouvernance politique de la gestion de cette crise. Si le gouvernement et la majorité acceptaient enfin d'associer tous les partis politiques, de la majorité comme de l'opposition, à un grand conseil stratégique sanitaire pour gérer cette crise, parce que là on voit que les uns et les autres ont tendance, et le gouvernement en premier, à vouloir en faire une arme politique, alors que ça n'est pas possible. C'est tellement grave pour notre pays qu'il faut gérer ça en concorde avec tous les partis politiques. C'est ce que le gouvernement et le président de la République refusent de faire depuis le début. Je leur dis qu'il n'est pas trop tard, parce que effectivement un certain nombre de décisions difficiles, parce qu'elles arrivent trop tard, vont devoir être prises dans les prochains jours. Il n'y a qu'à suivre les courbes, il n'y a qu'à écouter les alertes des épidémiologistes. Et on voit qu'aujourd'hui, à vouloir en faire un pari politique, eh bien... ce que vous dites est quand même terrible. Il va falloir, ce que disent les directeurs d'hôpitaux, il va falloir choisir entre certains malades. Vous imaginez, dans un pays comme la France?
Merci Mathieu Orphelin. Bonne journée.
Merci.